Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. Mit seinem Essay »Ein Ethnologe in der Metro« wurde er 1986 schlagartig bekannt. Marc Auger, der französische Ethnologe und Anthropologe, hat damit eine Anthropologie der Gegenwart begründet. Im vergangenen Semester war Auger Gastprofessor am Literaturwissenschaftlichen Departement der ETH Zürich. Sein Thema dort war das Verhältnis zwischen Literatur und Ethnologie. Barbara Basting hat Marc Auger bei dieser Gelegenheit getroffen und mit ihm über seinen Werdegang, seinen Blick auf die aktuelle Krise, über Ethnologie und über die Zukunft der Literatur gesprochen.
Die erste Frage an Marc Auger liegt auf der Hand, nämlich, was ihm während seines mehrmonatigen Aufenthalts an Zürich besonders aufgefallen sei. Den Metroforscher Auger beeindruckte, neben der Natur, dem See und dem leicht erreichbaren Grüngürtel, vor allem eines, das präzise getaktete Transportsystem. Es wirkt sich unmittelbar auf das Zeitgefühl der Bewohner aus, meint er. Der Stamm der Zürcher weiß, dass er fest mit Bus und Tram rechnen kann und bewegt sich daher weniger gehetzt als etwa die Menschen in Paris.
Ce qui m'a frappé, c'est par rapport au déplacement. C'est évidemment cette organisation très minutieuse, c'est-à-dire qu'on sait qu'un tramway arrive à la minute fixée. C'est infiniment agréable, on peut regarder chez soi partir deux minutes avant si on sait qu'on va prendre le tramway ou le bus qui passe à telle ou telle heure. Et j'ai l'impression que ça se retrouve un peu dans le comportement des piétons qui ont manifestement, dans leur grande majorité, bien intégré le système, qui ont des repères temporels comme cela. Je n'ai pas ce sentiment de harcèlement et de presse que l'on a à Paris très fréquemment. Il y a un rapport au temps et à l'espace plus détendu. Enfin, moi, j'y suis très sensible.
Es ist kein Zufall, dass Auger Zeit- und Raumstrukturen besonders aufmerksam registriert. Denn sie drängen sich als elementares Beobachtungsraster für Sozialwissenschaftler geradezu auf. Später im Gespräch, als es um die enormen gesellschaftlichen Verwerfungen in unserer Gegenwart geht, wird Marc Auger darauf zurückkommen. Denn er hat eine einleuchtende Diagnose für die aktuelle Krise. Und die geht so. Der Mensch ist ein historisches Wesen, er ist imprägniert von Geschichte. Aber heute gerät das sehr leicht in Vergessenheit. Wir alle sind völlig absorbiert von der Gegenwart und wir tun uns schwer damit, die Verbindung zur Tradition und zur Vergangenheit lebendig zu halten. Doch ebenso wenig gelingt es uns, mal etwas weiter über den Tellerrand hinauszublicken und nach vorne zu denken. Und daher hält Marc Auger die aktuelle Krise auch für eine Krise unserer Wahrnehmung von Raum und Zeit.
L'homme est un être aussi historique, en relation, mais aussi historique avec son passé. Peut-être même que l'un des problèmes aujourd'hui, c'est que nous avons du mal à décliner le temps, nous avons du mal à imaginer l'avenir et nous avons du mal à repenser le passé. Je crois que c'est l'une des formes de la crise actuelle, une crise de la pensée du temps et de l'espace, qui sont pourtant les deux constituants symboliques majeurs de l'humanité.
Marc Auger ist ein Wissenschaftler, der immer schon den Blick fürs Ganze, den Blick über die Grenzen der eigenen Disziplin hinaus kultiviert hat. Die Anthropologie ist für ihn denn auch eine Disziplin Carrefour, eine Disziplin, in der sich viele andere Disziplinen kreuzen. Und dieser breite Horizont ist es auch, der Auger an eine der wichtigsten Positionen im französischen Wissenschaftsbetrieb gebracht hat. 1935 geboren, war Auger ab 1985 während 10 Jahren Direktor der geisteswissenschaftlichen Elitehochschule EHESS in Paris, der prestigiösen École des hautes études en sciences sociales, und derzeit leitet er das Centre d'Anthropologie des Mondes Contemporains, das Zentrum für Anthropologie der Gegenwart. Augers intellektuelle Offenheit ist kein Zufall. Er studierte keineswegs Ethnologie, denn die gab es in den 60er Jahren in Frankreich noch gar nicht als eigenes Fach, sondern Literaturwissenschaft und Philosophie. Aber er wollte auch hinaus in die Welt. Und es traf sich gut, dass er den Afrikanisten Georges Balandier kennenlernte. In der Ethnologie sah Auger eine ideale Möglichkeit, um Literatur und Reiselust zu verbinden.
Alors, je suis littéraire de formation. J'ai fait normal sup et l'agrégation de lettres. Mais j'hésitais entre lettres et philosophie un peu. Et j'avais envie de bouger. Ce qui fait que lorsque j'ai entendu parler de l'ethnologie, dont on ne parlait pas dans le courant de mes études à l'époque, j'ai eu la chance de rencontrer Georges Balandier, qui était africaniste. Et tout de suite, j'ai eu le sentiment que je pouvais trouver là une sorte de synthèse entre la réflexion spéculative et la littérature, d'une part, et satisfaire, d'autre part, mon désir de bouger.
Seine ersten Ziele waren die Elfenbeinküste und Togo. Dort machte zunächst einmal die klassischen Feldstudien, hielt sich also länger vor Ort auf, tauchte in die dortigen Gesellschaften ein und legte die Grundlage für seine späteren Arbeiten.
La première étape importante, c'est certainement l'Afrique, la Côte d'Ivoire, où j'ai passé quelques années et que je n'ai jamais complètement abandonné. Ensuite, je suis allé un peu au Togo, en Afrique. Toute cette première période de l'ethnologie de séjour, j'allais dire, qui est évidemment essentielle, parce qu'on revient toujours sur ces expériences-là, même quand on élargit le champ, qu'on fait une anthropologie plus comparative, on revient sur les expériences de terrain que l'on a eues.
Später habe eher die sogenannte Reiseethnologie betrieben. Auch in seiner Funktion als Direktor der EHESS, der École des Hautes Études en Sciences Sociales, sei sehr viel herumgekommen. Habe in Osteuropa gelebt und in Asien. Seine Biografie als Wissenschaftler, meint Marc Auger, bildet die zunehmende Globalisierung ab.
Je voyageais, mais aux missions de terrain s'ajoutaient les missions pour l'école elle-même. Ça m'a été une occasion de circuler dans le monde un peu plus. J'ai un peu séjourné dans les pays de l'Est, j'ai séjourné en Asie. Je me suis un peu mondialisé en même temps que le monde. Il y a eu une coïncidence en fait entre le sens de l'histoire, me semble-t-il, et mon petit parcours à moi.
Schon zuvor, in den 70er Jahren, hatte als Forscher Lateinamerika für sich entdeckt. Aus Neugierde und als Gegenpart zu Afrika. Und dort wurde ihm zum ersten Mal klar, dass die sich abzeichnende Globalisierung nicht nur eine ökonomische Globalisierung war, sondern auch eine Globalisierung der Kommunikation und der immer rascher zirkulierenden Bilder.
Un autre moment important, ça a été dans les années 90, la découverte de l'Amérique latine qui m'a beaucoup intéressé en soi et parce que il y avait un écho aussi de mes terrains africains. Et là, j'ai fait une ethnologie plutôt de rencontres. C'était pas des vrais séjours de terrain, mais je me suis rendu sur le terrain d'élèves à moi ou de collègues. Et donc, j'ai fait comme le coucou. Je me suis glissé dans le nid des autres. Et ça a été très enrichissant aussi. On a fait un peu quelques films de cinéma aussi. Ça a élargi un peu mon horizon. Et c'est vrai que j'ai été sensible à ce mouvement que nous appelons aujourd'hui mondialisation ou globalisation, mais qui n'a pas seulement des aspects économiques. Les images, les messages circulent, et il m'a semblé que ce qui était, en somme, mon environnement quotidien, devait devenir un objet de réflexion.
Und von diesem Moment an war Marc Auger klar, was die Aufgabe einer künftigen Ethnologie sein musste. Sie hatte sich nicht mehr in erster Linie fremde, exotische Länder zu kümmern, denn diese verschwanden so rasch wie die letzten weißen Flecken auf der Landkarte.
Si on définit l'ethnographie par ses terrains empiriques, on peut avoir le sentiment que c'est en voie de disparition, bien sûr, puisque le monde change.
Stattdessen begann Auger den Blick auf die nächste Umgebung, den Alltag in unserer Gesellschaft zu richten. Begründete die Anthropologie der Gegenwart, die Anthropologie des mondes contemporains. Aber zugleich war ihm auch klar, dass sein Fach sich nicht mehr einfach nur über den neuen Gegenstand der Beobachtung definieren konnte, sondern weiterhin über die Erforschung von Beziehungen, also von Regeln der Kommunikation. Nur wurde auch das immer schwieriger, denn man muss dabei den Kontext der Kommunikation einbeziehen und dieser Kontext wurde je länger je mehr der gesamte Planet.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, où que l'on soit, le contexte de fil en aiguille, il devient la planète entière. C'est ça qui change.
Ebenso wichtig ist Auger aber ein anderer Aspekt der Ethnologie. Der Ethnologe verändert mit seiner Anwesenheit immer auch das jeweilige Umfeld. Wird Teil davon. Es gibt also keine neutrale Beobachterposition. Das klingt zwar nach einer Binsenweisheit, aber sie gilt eben auch dort, wo man das leicht vergisst. Etwa wenn ein Forscher sich die Probleme in einer Sozialsiedlung in der französischen Banlieue oder einer Fabrik vornimmt. Und er muss diese Tatsache, dass sich die beobachtete Situation durch seine Anwesenheit ändert, laut Auger sogar zum Ausgangspunkt seiner Reflexionen machen.
Peut-être que la première chose que l'ethnologue doit prendre en considération, c'est l'effet qu'il produit lui-même, c'est-à-dire ce qui se passe du fait de sa présence. Parce qu'il n'est pas un élément neutre, il n'est pas un observateur du haut du ciel, il est avec des hommes dans un milieu qui réagit à sa présence. Et c'est à travers ces réactions peut-être qu'il peut essayer de commencer à comprendre quelque chose, mais il ne peut pas ignorer qu'il est là. L'histoire de ceux qu'il observe change avec son arrivée. Et ça reste vrai même dans un contexte beaucoup plus contemporain actuel, très dans une ville ou etc. Si vous travaillez dans un... Je ne sais pas, moi, si vous prenez pour objet une habitation, un grand ensemble de la banlieue, ou une usine, ou une entreprise, ça peut se faire, à condition de préciser ce qu'on veut regarder. Mais de toute façon, l'arrivée d'un élément étranger comme ça est toujours une source de trouble. Et c'est par l'étude de ce trouble qu'il faut commencer, je crois.
Und zu diesem Kontext gehört auch die Diagnose von Marc Auger zur aktuellen Krise, die wir schon zu Beginn dieser Reflexesendung auf DRS2 kurz gehört haben. Sie hat mit unserer veränderten Wahrnehmung von Raum und Zeit zu tun, in der die Geschichte ebenso aus dem Horizont verschwindet wie die Zukunft und in der der Raum unüberschaubar, eben global ist. Wir stehen unter dem Diktat einer Gegenwart, deren Herkunft ebenso unklar ist wie die Richtung ihrer Entwicklung.
Donc fin de la pensée de l'avenir, mais fin aussi de la référence à l'histoire, ce qui fait que nous avons parfois l'impression d'être dans une sorte d'idéologie du présent dont nous ne savons pas exactement où elle conduit et d'où elle vient.
Zur Krise der Zeitwahrnehmung, die sich in der Diktatur des Präsens äußert, kommt die Neuorganisation des Raumes im Zeitalter der Globalisierung hinzu. Dabei gibt es ein Phänomen, mit dem Marc Auger sich seit längerem befasst. Es sind die Non-Lieux, wie auch seine viel zitierte Studie von 1992 heißt. Non-Lieux, wörtlich Unorte, sind all jene Durchgangsorte in der globalisierten Welt, an denen Menschen sich zwar kreuzen und begegnen, aber keinen wirklich verbindlichen oder gar dauerhaften Kontakt mehr miteinander haben. Also zum Beispiel Flughäfen, Bahnhöfe oder Einkaufszentren. Und diese Non-Lieux breiten sich Auger zufolge immer mehr aus.
Or c'est vrai que ce qui se développe aujourd'hui dans le monde planétaire, ce sont des espaces dans lesquels on se croise mais sans se rencontrer, où il n'y a pas de lecture possible d'un lien social permanent. Ce sont les lieux de circulation, ce sont les lieux de consommation, les lieux même les lieux de communication d'une certaine manière. Et dans un aéroport, on y passe pour prendre son avion, mais on n'a pas de rapport avec les gens, en principe, sauf par hasard, constant. De même sur une autoroute ou dans un supermarché. Et ces espaces prennent de plus en plus de place sur la Terre. Et ça se traduit dans le paysage. Donc le non-lieu, c'était ça dans un premier temps. C'est ce qui n'était pas un lieu, justement, au sens anthropologique du terme.
Allerdings ist der Gegensatz von Ort und Unort, Lieu und Non-Lieu für Marc Auger vor allem ein Konzept, den Raum zu lesen und zu interpretieren. Man kann also nicht einfach ein für allemal eine fixe Liste von Non-Lieu erstellen.
Lieu, Non-Lieu, c'est une clé pour essayer de lire l'espace, mais c'est tout. C'est pas une liste, il n'y a pas de liste empirique possible de lieu et de non-lieu.
Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Einführung in eine Anthropologie der Surmodernité, das war der Untertitel von Non-Lieu. Surmodernité, also in etwa Übermoderne, darunter versteht Auger eine beschleunigte Version der Moderne. Man trifft alle Phänomene an, die für die Moderne prägend und konstitutiv waren, wie zum Beispiel Automatisierung und Technisierung, Arbeitsteilung, Massenkommunikation oder globale Transportsysteme, aber in extrem beschleunigter Form. Und das macht ihre Analyse so schwierig. Ein Beispiel ist die Börse, wo automatisierte Systeme mittlerweile sogar kleinere Crashes auslösen können, mit realen Folgen, wie jüngst zu erleben war.
Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce que j'essaie d'appeler la surmodernité, c'est-à-dire une accélération des facteurs constitutifs de la modernité. Et une accélération et une pluralité qui rendent difficile l'analyse des causes et des effets.
Weil alles vor allem infolge der digitalisierten Datenströme so schnell geht, wird es immer schwieriger, Ursache und Wirkung voneinander zu trennen und zu analysieren. Und während unser Planet einerseits immer kleiner und uniformer wird, wird paradoxerweise die Ungleichheit zwischen den Menschen immer größer. Fatal daran ist, dass trotz aller Homogenisierung die Ungleichheit rascher wächst. Und darin sieht Auger ein großes Konflikt- und Gewaltpotenzial.
Par certains côtés, par exemple, la planète s'uniformise, s'unifie. Mais par d'autres côtés, les écarts, aussi bien en termes de fortune, d'économie, qu'en termes d'éducation et d'accès à la connaissance, n'ont jamais été aussi grands qu'aujourd'hui. L'inégalité se creuse plus vite que d'un autre côté, l'uniformité se fait. Ce qui fait qu'il y a là potentiellement une violence terrible qui les conditions d'une violence terrible qui se mettent en place.
Wir sind einer Illusion aufgesessen, der neoliberalen Illusion, meint Auger. Sie war vielleicht die letzte große Erzählung im Sinne des Philosophen Jean-François Lyotard und exemplarisch erzählt hat sie Francis Fukuyama 1992 mit seinem viel zitierten Buch Das Ende der Geschichte. Seine Idee klang zunächst bestechend. Die repräsentative Demokratie und die freie Marktwirtschaft verbreiten sich im Gleichschritt über den Globus und alle werden reicher. Nur leider funktionierte das nicht. Vor allem in den aufstrebenden Ländern hat sich die Ungleichheit in der Bevölkerung extrem vergrößert und in geringerem Maße auch bei uns.
L'illusion libérale, peut-être que le grand récit libéral est le dernier des grands récits, pour reprendre l'expression de Lyotard. Quand c'est Fukuyama qui, avec son thème de la fin de l'histoire, a construit le dernier grand récit, cette idée d'une généralisation à la Terre entière, d'une formule qui associe la démocratie représentative et le marché libéral. Seulement, nous voyons très bien que le marché libéral peut très bien s'accommoder de régimes qui ne sont pas du tout démocratiques et que la généralisation, quand elle s'opère, s'opère au mépris de l'égalité, même dans les pays émergents. Les pays émergents peuvent sembler représenter le fait que l'inégalité diminue, mais à l'intérieur des pays émergents, l'inégalité se creuse comme chez nous.
Inzwischen bildet sich eine neue globale Aristokratie heraus, analysiert Marc Auger, deren Pole sind durch die großen Netzwerke der Kommunikation miteinander verbunden und dort konzentrieren sich Macht, Wissen und Geld.
La perspective qui se dessine à terme, c'est plutôt une aristocratie planétaire plutôt qu'une démocratie planétaire. Une aristocratie, et l'on voit bien d'ailleurs presque géographiquement les grands pôles qui se constituent et qui sont reliés par des réseaux, tous ces réseaux de la communication, de la circulation. Il y a donc des grands pôles urbains au sens large où se concentrent la connaissance, le pouvoir et l'argent.
Und Marc Auger beobachtet die Entwicklung von drei Schichten. Die Herrschenden dominieren die Systeme von Wissen, Bildung und ökonomischen Ressourcen. Daneben gibt es eine Schicht, die hauptsächlich passiv konsumiert und gebraucht wird, damit die Maschinerie weiterläuft. Und schließlich gibt es die wachsende Zahl jener, die völlig an den Rand gedrängt werden, die weder zum Wissen noch zum Geld und zum Konsum Zugang haben. Und diese Entwicklung beschleunige sich derzeit. Die neoliberale Erzählung erweist sich daher nach dem Zusammenbruch des Marxismus-Kommunismus als letzter großer Mythos, der nun auch kollabiert sei, meint Auger.
Ce qui fait que j'ai l'impression que nous marchons, dans l'état actuel des choses, vers un système à trois couches. Les dominants dans l'un des trois domaines, connaissance, pouvoir et économique, il y a une couche moyenne de consommateurs, d'utilisateurs des produits il y a un devoir de consommation pour que la machine marche, mais de consommateurs un peu passifs qui fréquentent plutôt les lieux de la consommation que les laboratoires de la connaissance. Et puis il y a la troisième couche qui est ceux qui sont exclus à la fois de la connaissance et de l'argent. Et dans l'état actuel des choses, ça s'accentue plutôt. Donc pour autant qu'il y avait un grand récit libéral qui voyait l'avenir de la planète comme une espèce de grande entreprise où tout le monde serait bien à sa place et bien à place, ça apparaît aussi comme un mythe. Et donc c'est peut-être le dernier grand récit, non plus collectiviste, marxiste ou autre, mais libéral, qui est en train de s'effondrer.
Die gegenwärtige Krise habe viel mit einer schockhaften Einsicht zu tun, dass nämlich künftig eine wachsende Zahl von Menschen verarmen, ja sogar zugrunde gehen wird, damit einige wenige umso mehr profitieren.
Et c'est peut-être à ça que correspond un peu la crise actuelle, la prise de conscience du fait que pour que le système marche, il faut qu'il y ait des gens qui s'appauvrissent. Le système est tel que à un bout on s'enrichit beaucoup et à l'autre on dépérit beaucoup.
Und was kann die Rolle der Anthropologie in all dem sein? Marc Auger sieht die Aufgabe der Wissenschaft in der Analyse von Vergangenheit und Gegenwart, nicht im Erteilen von Ratschlägen. Aber darüber hinaus gibt es für ihn aufgrund seiner Analyse eine allerdings utopische Lösung. Diese Utopie ist der Kampf um Wissen und Bildung für möglichst viele. Nur so könnten die drohenden Konflikte infolge von Ungleichheit und religiösem Fanatismus abgewendet werden.
Je pense que la seule utopie qu'il faudrait essayer de construire aujourd'hui, c'est une utopie de l'éducation pour lutter contre ce... On parle parfois de l'univers en expansion, mais il ne faut pas que l'univers humain soit en expansion entre le pôle de la connaissance et le pôle de l'ignorance. Et il faut que ces écarts cessent d'exister, parce que sinon, nous aurons un monde menacé par la violence, à cause des inégalités, à cause des folies qu'entraîne l'ignorance, les folies meurtrières d'ordre religieux ou autre.
Auger ist aber realist genug, um eines zu wissen. Dieser Zugang zur Bildung für alle sei theoretisch möglich, aber politisch eher schwierig und erst recht utopisch angesichts der aktuellen Entwicklung der Dinge.
Theoriquement, cet égal accès au savoir, il pourrait exister. Alors, comment trouver les cheminements politiques pour construire cette société utopique de l'égalité partagée dans l'éducation? Ça, je ne sais pas. Non seulement je ne sais pas, mais je sais que c'est une utopie puisque toutes les tendances actuelles vont contre cela.
Es brauche wohl metaphysische Revolutionen, um eine solche Utopie Wirklichkeit werden zu lassen, meint Auger nüchtern. Aber alle anderen Lösungen seien illusorisch.
Moi, je crois qu'il faut des révolutions même d'ordre métaphysique. Notre existence n'a d'intérêt que par cette interrogation sur ce que nous sommes et ce qui est évidemment l'univers dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire que seule la science est intéressante. Ce n'est pas un programme austère que je formulerai là-dessus, parce qu'il n'y a pas de raison pour que ça soit austère. Mais tout le reste est illusion, aliénation.
Marc Auger skizziert als Ethnologe und Anthropologe, ja einfach als engagierter Wissenschaftler, ein nüchternes Bild unserer Zeit. Und er hat dies zuletzt auch in seinem Carnet de route et de déroute getan, seinem Tagebuch der Wege und Abwege, in dem er seine Beobachtungen im Jahr der Finanzkrise 2008 formuliert. Es ist beispielhaft für die zahlreichen, nur vereinzelt ins Deutsche übersetzten Bücher, in denen Auger sich als eleganter, kluger Essayist zu Wort gemeldet hat. In ihnen spiegelt sich seine Verwurzelung in der Literatur, eine lebenslange Befragung des Verhältnisses von literarischer und ethnologischer Beschreibung der Welt. Zwischen Ethnologie und Literatur gibt es für Auger keine fixe Grenze. Denn beide befassen sich mit einer Wirklichkeit, die nicht direkt greifbar sei und die es zu übersetzen gelte.
Alors, il m'a semblé qu'il n'y avait pas une coupure entre l'écriture de l'ethnologie et l'écriture tout court, écriture éventuellement romanesque ou autre. Parce que on pourrait se demander à l'inverse, mais qu'est-ce que c'est la littérature? Et la littérature aussi se donne pour objet, non pas le mensonge, mais au contraire, des vérités, mais qui sont dites indirectement, ou qui ne sont pas démontrées, etc. Mais qu'on essaie de transmettre.
Um die Komplexität der aktuellen Welt und ihre Auswirkungen auf das Empfinden des Individuums wiederzugeben, brauche es eine literarische Anstrengung.
Pour rendre compte de la complexité du monde actuel, au regard d'une sensibilité individuelle, je crois qu'il faut un effort d'écriture, c'est-à-dire d'essayer de trouver une écriture d'où l'on n'est pas absent pour faire ressentir ce que ça représente à d'autres. Je crois donc que c'est un exercice littéraire comme un autre.
Seiner Ansicht nach ist der heutige Literaturbegriff viel zu eng gefasst. Er beschränkt sich nämlich auf die Fiktion. Dabei gelten zum Beispiel Voltaire oder Rousseau als große Literaten, obwohl der Löwenanteil ihres Werkes nicht fiktionaler Natur ist, sondern aus Abhandlungen oder Briefen besteht.
Aujourd'hui, nous avons tendance à assimiler littérature à fiction. Mais il suffit de regarder l'histoire de la littérature pour voir que c'est pas vrai. Est-ce que Rousseau, Diderot, Voltaire, ce sont des grandes figures de l'histoire de la littérature, et très peu de fiction. Aujourd'hui, on a parfois tendance à avoir une conception trop réduite de la littérature. Donc l'interrogation, à mon avis, elle porte plutôt sur la littérature que sur l'anthropologie.
Weil es in der Anthropologie, ganz ähnlich wie in der Literatur, um die Darstellung menschlicher Beziehungen geht, plädiert Auger für einen literarischen Stil, der eben mehr transportiert als rein sachliche Prosa. Denn im literarischen Stil ist der Beobachter als Schreibender anwesend. Und das ist wichtig, weil es auch in der Anthropologie um ein subjektives Verhältnis zwischen Schreibendem und Lesendem geht.
Il y a des philosophes qui ont du style, c'est-à-dire qui sont présents dans ce qu'ils essaient de dire, et ça leur donne une dimension particulière. Alors c'est cela un peu. Dans la mesure où l'anthropologie se présente comme l'étude de la relation, des relations qui s'établissent entre les uns et les autres, je crois qu'il est légitime, quel est le souci de poser aussi le problème de la relation entre l'écrivain et le lecteur.
Marc Auger stellt fest, dass sich die Rolle der Literatur in der Gesellschaft insgesamt stark verändert hat. Er werde ein bisschen nostalgisch, wenn er an die Zeiten eines Victor Hugo denke, als die Literaten so populär gewesen seien wie heute vielleicht manche Popstars. Auger spekuliert sogar, dass der Roman als Gattung sich in seiner jetzigen Form verbraucht haben könnte. Und mittlerweile seien wohl manche amerikanische Fernsehserien, die sowohl ein populäres wie ein gebildetes Publikum ansprechen, an seine Stelle getreten.
Peut-être que nous assistons à l'épuisement du roman. Il y aura peut-être d'autres formes. Je vois qu'on commence à se les poser au cinéma parce qu'on s'est rendu compte que quand même il y avait des séries américaines qui avaient beaucoup de talent. C'est pas parce qu'elles sont vues. Alors voilà un exemple d'un mode d'expression qui peut être populaire et apprécié aussi par, s'ils osent l'avouer, par des gens plus savants. Alors ça se voit bien cela dans le domaine de l'image, mais je pense qu'il y aura toujours place pour une civilisation de l'écrit et toujours un besoin de s'exprimer avec un besoin d'auditeur. Mais à travers quelle forme, ça reste ouvert. Ce que sera la littérature de demain, je ne sais pas. Mais en tout cas pas ce que nous appelons littérature aujourd'hui, qui est beaucoup trop restreint.
Marc Auger ist aber optimistisch. Es wird auch weiterhin Platz geben für Geschriebenes und es bleibt das Bedürfnis, sich auszudrücken und ein Publikum zu haben. Sicher, all solche Beobachtungen aus dem Mund eines Anthropologen mögen erstaunen. Doch sie leuchten ein. Und es wäre längst nicht zum ersten Mal, dass Marc Auger mit seiner Analyse der Gegenwart etwas Wesentliches trifft oder uns zumindest zum Nachdenken bringt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.